Alors, je suis très heureux d'avoir parlé de l'amour. C'est moi qui ai choisi cet item dans l'abécédaire composé par Marlus. En même temps, c'est vrai que c'est un thème vaste, l'amour. C'est un vaste domaine. Alors, il me semblait qu'il y avait peut-être deux choses sur lesquelles je souhaitais insister. C'est les liens entre l'amour et l'intersubjectivité, d'une part, et d'autre part, la rencontre entre le bébé et la mère, enfin l'adulte qui prend soin de lui au début de sa vie, et au tout début de sa vie, quand tout se passe bien, il me semble que cette rencontre initiale, un peu folle, a à voir avec l'amour fou, ensuite des adultes, décrit par André Breton. Alors, amour et intersubjectivité. L'intersubjectivité, l'accès à l'intersubjectivité, aujourd'hui on en parle beaucoup pour les bébés, c'est vraiment ce qui lui permet de se différencier et de sortir des étapes les plus archaïques du développement. L'accès à l'intersubjectivité, c'est à la fois le creusement de l'écart intersubjectif, mais s'il y a seulement creusement, ça ne suffit, ça ne convient pas, parce que le bébé se retrouve tout seul de l'autre côté de la rive de l'écart intersubjectif. Donc il faut non seulement creuser cet écart intersubjectif, mais que le bébé et l'adulte co-créent, tissent ensemble des liens qui leur permettent de rester ensemble en dépit de cet écart intersubjectif. Cet écart intersubjectif, c'est ce qui va permettre au bébé de se sentir exister comme un individu distinct, qui n'est plus confondu avec l'autre, qui n'est plus collé à l'autre, qui n'est plus fusionné à l'autre. Je pense qu'il faut prendre des mots du registre émotionnel, là, ce qui permet au bébé de le sentir, de le ressentir, de le vivre, de l'intégrer profondément. C'est émotionnel avant d'être intellectuel, le bébé va le sentir avant de le savoir, bien entendu. Mais un jour ou l'autre, quel que soit le modèle qu'on prend pour rendre compte de ce processus, il va se ressentir comme un individu différent de l'autre. Un individu distinct, sentir que lui et l'autre, ça fait deux, et qu'entre lui et l'autre, eh bien justement, il y a cet écart intersubjectif dans lequel vont progressivement s'instaurer les liens primitifs, les interactions, un jour le langage, et puis la culture, les phénomènes culturels dans leur ensemble. C'est un petit peu comme si une araignée voulait quitter le plafond pour aller par terre, elle ne se jette pas par terre. Elle tisse des fils, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Et puis quand elle est arrivée par terre, alors bien sûr elle est séparée du plafond qu'elle a quitté, mais elle reste reliée au plafond qu'elle a quitté. Et elle peut même, si elle a besoin ou si elle a envie, ça, je ne sais pas très bien faire la différence entre les besoins et les envies des araignées, mais si elle doit remonter au plafond, elle peut le faire le long des liens qu'elle a elle-même tissés. Alors l'exemple vaut ce qu'il vaut, parce que le plafond dans l'histoire ne fait rien, alors que entre adultes et bébés, les deux ensemble, chacun va ensemble avec l'autre, secréter, tisser des liens qui permettent de rester ensemble malgré l'écart qui se creuse et qui doit se creuser. Et ces liens primitifs, bon, je ne vais pas y insister là, mais c'est tout ce que la psychologie du développement précoce, tout ce que la psychiatrie du bébé, tout ce que la psychopathologie infantile nous a appris depuis 30 ou 40 ans, les liens primitifs préverbaux, les fils de l'araignée préverbaux, c'est l'attachement, c'est l'accordage affectif de Stern, c'est l'empathie, c'est l'imitation, c'est le dialogue tonique de Vallon, d'Ajuria Guerra, en termes psychanalytiques, ce sont les identifications projectives normales. Et il faut que tout ça fonctionne à peu près, c'est une merveille, que 99% des enfants y arrivent. S'ils n'y arrivent pas, ben c'est la pathologie archaïque de type autistique, c'est l'effroi. Mais le développement normal, quelque part, c'est un miracle, parce que c'était vraiment un double mouvement très subtil de creuser l'écart intersubjectif pour se sentir exister comme différent de l'autre et rester en lien avec l'autre grâce à tous ces liens que j'ai évoqués rapidement. Alors, parfois, et j'en viens à l'amour, parfois on dit les plus belles histoires d'amour sont muettes. Bien sûr, chacun a ses goûts, mais en réalité, la phrase n'est peut-être pas tout à fait complète, parce que les plus belles histoires d'amour fusionnelles sont muettes. Et effectivement, dans la fusion, tant que l'autre n'est pas un autre suffisamment distinct de nous, on ne peut ni y penser, ni lui parler. Si les enfants autistes ne parlent pas, ce n'est pas une question de lèvres, de joues ou de langue, c'est parce que l'autre, dans leur tête, n'est pas encore suffisamment stabilisé. Ils ne peuvent pas parvenir à y penser et à s'adresser à lui. Mais dans la fusion, donc, la fusion est forcément silencieuse. Alors, que sont les plus belles histoires d'amour? Bon, chacun le voit à sa façon. Moi, il me semble que les plus belles histoires d'amour, c'est des histoires d'amour où il y a fusion, retour à l'en-deçà de l'intersubjectivité, et là, effectivement, elles sont silencieuses, mais aussi des moments de défusion, ne serait-ce que pour pouvoir dire « je t'aime ». Pour pouvoir dire « je t'aime » à l'autre, il ne faut pas être fusionné à lui, il faut être défusionné, sorti de cette indifférenciation. Et il me semble qu'une plus belle histoire d'amour, c'est celle qui oscille entre des moments de fusion silencieuse et des moments de défusion où on peut penser et parler à l'autre, et notamment lui dire « je t'aime ». Alors, dans l'amour des commencements, Jean-Bertrand Pontalis, bon, c'est un livre formidable qu'il avait écrit, là. Il a eu cette phrase un peu énigmatique à l'époque, mais à la lumière du bébé, on la comprend mieux. Il disait « si le langage nous touche à ce point-là toute la vie, le langage verbal, c'est parce qu'il ne parle au fond que de séparation. Le langage est la séparation même. » Et je crois qu'aujourd'hui, on peut bien le comprendre. En fait, quoi qu'on dise, même si c'est pour dire « je t'aime », qu'est-ce qu'on est bien ensemble, qu'est-ce qu'on s'entend bien, qu'est-ce qu'on se comprend, le fait même de parler est un constat d'écart intersubjectif, puisque pour parler, il faut que cet écart se soit creusé. Alors, le langage, c'est ça qui est très beau, je trouve, dans le langage, et dans le langage d'amour en particulier. Ce qui est très beau, c'est que le langage constate l'écart, mais passe en pont, essaye de compenser cet écart en tissant ce lien, qui ne marchera, encore une fois, que si tous les liens préverbaux, les liens primitifs, les interactions précoces, les fils de l'araignée dont je parlais tout à l'heure, ont été cotissés de manière suffisamment réussie. Voilà ce que je voulais dire pour amour et intersubjectivité. Il y a deux conceptions de l'amour, fusionnelle, où l'objet s'efface, et intersubjectif, où l'objet existe, avec ses différences, pas trop de différences, mais un peu de différences quand même, sinon on est amoureux de soi-même et d'un double. Un double, c'est pas un autre objet, c'est un double. Alors, le deuxième point que j'avais envie d'évoquer, c'est la question de l'amour fou. L'amour fou, c'est André Breton qui a défini l'amour fou comme, avec cette phrase qui est assez célèbre, qui est « je m'étais perdu à moi-même et tu es venu me donner de mes nouvelles ». Effectivement, l'objet qui nous donne des nouvelles de nous-mêmes, c'est probablement un objet qu'on peut aimer d'un amour fou. Et la question que j'avais envie de poser dans le cadre de cet enregistrement, c'est de savoir si c'est pas le rôle même de la mère, enfin la fonction maternelle, l'adulte qui s'occupe, qui prend soin du bébé, est-ce que la fonction, une des fonctions principales de la mère, c'est pas de donner des nouvelles au sens d'informer le bébé sur ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire une fonction miroir qui peut passer par la cordage affective de Stern, qui peut passer par la fonction miroir des yeux, enfin la fonction miroir au sens où on l'entend habituellement. Mais c'est vrai que la mère doit informer le bébé sur ce qu'il est lui-même. Dans la cordage affective, le bébé envoie un signal et il ne peut pas prendre conscience de ce signal tout seul. Il faut que ce signal lui revienne de la part de l'autre, soit sous forme unimodale, soit sous forme transmodale, soit tout de suite ou pas tout de suite, soit fort, soit doux, enfin tous les styles interactifs existent. Mais en tout cas, quand la mère envoie une réponse au signal de l'enfant, elle l'informe du même coup sur le signal qu'il a envoyé et dont il ne peut pas prendre conscience. Donc ce n'est pas des nouvelles de lui qui se serait perdu, c'est des nouvelles de lui qui est en train de se construire. Et évidemment, c'est peut-être une des plus belles fonctions parentales, hein, d'aider l'enfant à se construire en l'informant sur les signaux qu'il envoie. Je m'étais perdu à moi-même et tu es venu me donner de mes nouvelles de moi aujourd'hui, pour le bébé, ou de mes nouvelles de moi autrefois, dans l'amour entre adultes.